Et vous le savez, vous l'avez suivi en direct, quasiment en permanent sur nos ondes. Lise Benkemoun était partie faire le pèlerinage de la Griba. À cette occasion, elle a eu l'occasion de rencontrer un tas de personnalités. Le docteur Gabriel Kabla fait partie de ces personnalités qu'elle a rencontrées. Il est originaire de Djerba, où il connaît quasiment tout le monde. Il tente de nous expliquer les particularités de ces juifs tunisiens particuliers et de leur petite île, celle de Djerba, bien sûr. Une interview qui, vous vous en doutez bien, avait été enregistrée avant l'attentat. On écoute tout de suite le docteur Gabriel Kabla au micro de Lise Benkemoun.
Docteur Gabriel Kabla, bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka.
Bonjour. Alors, merci à vous d'être à Djerba.
Il faut que vous nous racontiez absolument l'histoire des Juifs de Djerba, parce qu'on n'a pas encore bien compris. Donc, ce pèlerinage de la Griba, il remonte à quand en vrai?
Alors, l'histoire du Djerba, c'est une chose, le pèlerinage est une deuxième. Les Juifs de Djerba sont là depuis la destruction du premier temple de Jérusalem. Voilà. Maintenant, ce pèlerinage, c'est le lac Baomer, à la mémoire de Shimon Bar Yochai, depuis des années, tous les Juifs le fêtent. Et à Djerba, les Juifs de Tripoli, qui étaient très proches avec Djerba, venaient faire leur fête à Djerba. Ils ont installé cette iloula, qu'on appelle aujourd'hui à la mode iloula, à la Griba de Djerba. Alors, les Juifs de Djerba sont des Juifs, mais très anciens. Alors pourquoi ça fascine le monde? Parce que les autres Juifs ont changé. Mais les Juifs de Djerba sont antérieurs aux Séfarades, au moins à la division entre Séfarades et Ashkenaz. Donc ils ont leur spécificité. Ça fascine le monde s'ils veulent. Alors dans un pays arabe, si vous considérez que la Tunisie est un pays arabe, c'est vous qui donnez la définition. Moi je sais que la Tunisie est un pays du Maghreb. Hein, les originaires des habitants de Djerba, c'est des Amaziques, c'est des Berbères. Ils ont été envahis par les Arabes, je veux bien. Maintenant, on veut les appeler des pays arabes. Mais c'est les seuls Juifs des pays, comme vous dites maintenant, puisqu'on dit arabes, qui augmentent en nombre. C'est eux qui ont décidé de rester à Djerba. Ils ont un lien, ils aiment ça. Vous allez les obliger à partir?
Non, c'est moi, impossible. J'oblige personne. Mais vous n'avez pas l'impression qu'ils sont un peu prisonniers, Gabriel?
Prisonniers? Ils ont tous leur passeport dans la poche. Ils ont tous des familles, soit en Israël, soit à Paris. Prisonniers de quoi? C'est eux qui veulent vivre dedans. Mais moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, excusez-moi, c'est que vous voulez toujours donner des leçons aux autres. C'est leur décision. C'est eux qui veulent.
Non, le jour où ils veulent partir, on voudrait avoir des visas pour Paris, on peut pas.
Non, mais ça c'est différent. Des visas, c'est politique. Hein, on peut en avoir ou pas avoir, c'est autre chose. Mais s'ils veulent quitter de Djerba, 5 Airbus et Djerba, il y a plus de Juifs. On va pas en raconter l'histoire.
Non, ça, ils ont l'air heureux, c'est pas ce qu'on dit.
Bah alors, ils n'ont pas de visa vers la France.
Mais pourquoi? Parce qu'ils ont peur qu'ils restent là-bas.
Ben, cette question, posez-la, s'il vous plaît, à Macron.
Mais c'est pas lui qui décide des visas.
Ça va pas, non? Bien sûr que c'est lui qui décide des visas.
C'est un problème pour la France?
Non, il n'y a aucun juif de Djerba qui peut avoir des problèmes avec les visas. Et celui que vous rencontrez qui a ces problèmes, il peut m'appeler. Quand c'est des vrais problèmes.
D'accord.
Revenons sur l'histoire.
Alors, on revient sur les Juifs de Tripoli. Ils sont arrivés quand exactement?
Juste de Tripoli. Cette fête, elle remonte à peut-être un siècle et demi. Les Juifs de Tripoli, quand ils ont commencé à être aisés, quand il y a eu du pétrole, et surtout la voie de la soie, qui a traversé par la Tripoli, Benghazi, Alexandrie, et vers les Indes, les Africains emmenaient l'or d'Afrique ou les diamants, et puis ils échangeaient ça contre les épices et la soie, ce qu'on appelle la voie de la soie. Les Juifs de Tripoli sont devenus aisés. Comme ils sont attachés et très religieux à Djerba, à la Griba, ils venaient faire la fête du lac Baomer, qui est une fête pour les Juifs. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi le lac Baomer? C'est la fête du décès de Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'il a fait, Shimon Bar Yochai? Il a souffert des Romains. D'accord? Il a été caché 40 ans, moi je n'ai pas vérifié. Il a mangé du karoub pendant 40 ans et on a tué ses élèves. Et il a écrit le Zohar, qui est du cantique. Je ne vous conseille pas de le lire si vous n'êtes pas très, très érudit. C'est un truc vraiment mystique. D'accord? Ici, ils y sont attachés. Ils venaient faire leur fête à l'Agrippa. Ils ont même construit un bâtiment derrière le caravansérail, le fondouk, spécifique pour les Tripolitains ou les Juifs tunisiens qui venaient pour la fête du lac Baomer à l'Agrippa, n'avaient pas le droit d'y habiter. Voilà, c'est des faits historiques. Moi, je rappelle, je ne suis pas historien.
Et pourquoi ils sont si différents, les Djerbiens, des autres Tunisiens?
Parce qu'ils sont spécifiques.
Parce qu'ils habitent sur une île?
Parce qu'ils sont spécifiques. Chacun est différent de l'autre.
Non, mais pas seulement, quand même. Ça veut dire qu'ils ont conservé...
Ils ont conservé ce qu'ils sont. Ils étaient fiers de ce qu'ils sont. Ils ont essayé de protéger ce qu'ils ont. C'est tout. Même en partant en Israël dans les années 48 et 56, quand on leur a demandé d'aller voir le rabbin séfarade, ils ont dit non. Rabbin Ashkenaz, ils ont dit non. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ils ont dit, notre rabbin, nous, on est différent. Ils ont ramené un rabbin de Djerba qui s'appelait Saban, Khadir Saban. Il a été un étivote. Il a créé le rabbinat de Djerba, un étivote. Excusez-moi, même si on n'est pas très nombreux, on peut être spécifique.
Alors, c'est quoi leur coutume spécifique?
C'est toute une discussion. Ils ont des choses qui ne ressemblent qu'à d'autres villes. Par exemple, la nuit de Pessah, ils lisent ce qu'on appelle le kiddush long, qu'on ne retrouve que à Téhéran et à Jérusalem. Ils ont des ftarot, les azaftarot, qui ne lisent qu'à Djerba et à Jérusalem. Ils ont des spécificités comme ça parce qu'ils sont antérieurs au Shulchan Aruch. Ils ont fini par faire leur Shulchan Aruch, qui a été écrit par Rabbi Chalfoun Moshe Cohen.
Est-ce qu'à vos yeux, Djerba, c'est une ville sainte comme Jérusalem?
Alors, à leurs yeux, ils appellent Djerba le couloir de Jérusalem. J'aurais fait un petit peu différemment, mais eux, ils ont fait comme ça.
Pourquoi vous aurez fait que ce n'est pas l'entrée, ce n'est pas le couloir, c'est la salle à manger?
Ne me mettez pas en mal. Simplement, je vous dis qu'eux, ils ont appelé Djerba Sqif Jérusalem, le couloir de Jérusalem. Et ils pensent vraiment que Djerba est sacré. Et même des rabbanim ashkénazes qui habitaient Jérusalem depuis du temps, même avant la création de l'État d'Israël, ils pensaient que Djerba est sacré. Alors, pour les talites, l'écharpe là pour les juifs, les talites, ils n'acceptaient de mettre les talites que ceux qui viennent de Djerba à partir de la laine de moutons qui n'ont brouté qu'à Djerba.
Et vous êtes né ici?
Oui.
Et c'est quoi vos souvenirs d'enfance de Djerba?
Tout ça.
Et ça vous manque pas?
Ah non, pas ça me manque pas. Mais c'est des trucs, quand on était petit, on comprenait pas l'importance. Maintenant que tout le monde parle de trucs très compliqués, ou qu'un musulman doit tuer un juif doit manger un musulman, nous, on n'avait pas envie de manger un musulman et on ne connaissait pas beaucoup ceux qui voulaient nous tuer.
C'est le meilleur exemple de coexistence et de fraternité?
Ah, c'est pas le meilleur. Il n'y a pas de meilleur. Mais il y a une coexistence. Il y a surtout un vivre ensemble. Ce vivre ensemble n'est sûrement pas le meilleur du monde. Il a des défauts. Mais il n'est pas basé sur l'amour. Il est basé sur le respect. L'amour, excusez-moi, et vous êtes une femme, il est très futile.
Et donc, ma dernière question, c'est un bon exemple qu'on peut exporter ailleurs?
Voilà, c'est ce que j'ai dit aux Israéliens quand il y avait de grandes difficultés. Je lui ai dit, le jour où vous ferez la paix avec les Palestiniens, si vous avez oublié comment vivre ensemble, Nous, il nous reste une petite bougie allumée, on peut vous prêter la mèche.
Et vous vous sentez juif arabe ?
Ah non, je ne suis pas arabe, moi.
Seulement juif ?
Je suis tunisien.
Et ça, c'est pas une nationalité
arabe. Juif, ça fait partie d'un de mes adjectifs.
Et vous aimez parler arabe, alors ?
Ah ben, c'est ma langue de naissance. Pourquoi le juif doit avoir une langue de naissance absolument occidentale ? Chaque fois que je passais à la radio, je disais à moi, ah, tu parles arabe ? Je l'aurais dit en anglais, ça n'aurait choqué personne. Or, les juifs ont été plus tués par les anglais et les français que par les arabes. Il faut arrêter. Il faut voir l'avenir un peu plus en rose. Je ne suis pas utopique. Je connais les problèmes qu'il y a. Aujourd'hui, l'antisémitisme des pays islamiques et arabes est un antisémitisme de type ce qu'on a connu chez les chrétiens. D'accord ? Ce n'était pas comme ça. Mais par pragmatisme, même pour Israël, elle n'est entourée que des Arabes. Il faut commencer à passer à table, quoi. Hein ? Voilà.
Donc vous êtes optimiste pour l'avenir ?
Non, parce qu'il est géré par les humains. Mais il faut continuer dans ce sens-là et on n'a pas le choix.
Et vous ne pensez pas que la Tunisie va normaliser ses relations avec Israël ?
Ça, je m'en fous. Ça va vous choquer. Je sais que ça va faire mal. Mais pour moi, pour amadouer Israël pour ce que les Palestiniens subissent, c'est mieux de parler avec eux, de les approcher. Mais je suis en dehors des décisions. Vous savez, je suis un petit juif de Djerba à Paris.
Incontournable à Djerba néanmoins. Merci, docteur Gabriel Kavla, d'avoir été avec nous.
Je vous en prie.